VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Human Rights Watch a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement dans un rapport publié ce mardi. Human Rights Watch affirme avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement et pour une majorité d'entre elles victimes d'actes de torture, bastonnades, décharges électriques, simulacres d'exécution dans des centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016, selon le rapport de 102 pages intitulé « Nous t'obligerons à avouer torture et détention militaire illégale au Rwanda ». Toujours à propos du Rwanda, le juge français chargé de l'enquête sur l'attentat contre le président Habyarimana en 1994 veut confronter deux membres du clan Kagame au pouvoir au Rwanda avec un nouvel accusateur, ce qui risque de raviver les tensions entre Paris et Kigali. Bagassi Koura.
Le nouveau témoin a été entendu par le juge Clément Herbeau qui a repris l'enquête. Il dit avoir chargé deux missiles dans un camion vers Kigali en présence de James Kabarebe, une figure de la rébellion à l'époque, aujourd'hui ministre de la Défense. Il prête même des propos à M. Kabarebe, se félicitant de la mission le 6 avril 1994 au soir, qui a marqué le début des massacres à grande échelle. Le juge a ordonné une confrontation mi-décembre à Paris avec James Kabarebe et Frank Nziza, le tireur présumé. Un des avocats des deux hommes, Maître Léon Le Foster, a dénoncé une manipulation médiatique. L'enquête, close une première fois en 2014, a été relancée en 2016, pour entendre un ancien général entré en dissidence. Faustin Kayumba Nyawasa, réfugié en Afrique du Sud, n'a jamais été entendu par la justice française. Ce dernier rebondissement ne va pas calmer les relations déjà tendues entre Paris et Kigali, qui, de son côté, avait publié une liste de 22 officiers supérieurs français accusés d'implication dans le génocide.
RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les attaques dans lesquelles deux casques bleus de Tanzanie ont été tués et 18 casques bleus blessés, a déclaré dans un communiqué publié hier soir à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric. L'attaque perpétrée dans l'est de la République démocratique du Congo a été imputée aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées, ADF, qui auraient aussi tué samedi une vingtaine de civils, a annoncé la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. Les Libériens choisissent ce mardi un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi les 20 candidats en liste, le vice-président sortant, Joseph Boakai et le légendaire footballeur George Weah. Reportage Bram Postumus, récit Lionel Gaïma.
L'hymne de campagne du parti au pouvoir est on ne peut plus clair. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur mardi et c'est nous, chantent ces militants du Parti de l'Unité. Rosa là-bas, une militante, déborde d'enthousiasme.
Nous avons besoin de quelqu'un à même de prendre sa relève et continuer.
Une allusion à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Pour les militants du Parti de l'Unité, nul ne mieux placé pour lui succéder que son vice-président Joseph Boakai. Réservé, il n'a jamais été accusé de corruption et jouit d'une bonne réputation. Sa candidature ne fait pas pour autant l'unanimité dans le pays. Le pasteur Ibrahim Ko plaide pour l'alternance. Je suis pour la continuité, mais dans un sens différent. Ce parti nous a servi pendant 12 ans, donc l'heure est venue de changer. Dit changement au Liberia et le regard se tourne vers l'immense quartier général de campagne de George Weah. Légende du football et sénateur de Montserrado, il a brigué la présidence à deux reprises et pense que la troisième fois sera la bonne. Sa militante, Cécilia Moi, est très convaincue.
Je vote pour lui pour l'avenir. Il fera quelque chose de bon pour le Libéria.
Parmi les grands besoins du pays, la remise en état d'un système de santé délabré et dont les lacunes ont été visibles durant l'épidémie d'Ebola qui a pris fin il y a un peu plus d'un an. Les secteurs de l'éducation et des infrastructures routières nécessitent de grands investissements. La commission électorale en a fait la meilleure expérience dans l'acheminement du matériel électoral dans le coin reculé. Les résultats provisoires attendus cette semaine permettront de déterminer s'il y aura un second tour.
Merci Lionel. En Côte d'Ivoire, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a été inculpé et écroué lundi après son audition dans une affaire de cache d'armes. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre Souleymane Camarate Skone, dit Soul to Soul, pour complot contre l'autorité de l'État, a déclaré le procureur Richard Christophe Adou. Une cache d'armes avait été découverte en mai à son domicile lors d'une mutinerie à Boaké, deuxième ville du pays et fief de l'ancienne rébellion des années 2000. La cache contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre et de munitions, selon le procureur.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Il est 7h05 à Washington. L'ancienne chanteuse et musicienne burundaise Kajanine s'est associée à plusieurs associations pour venir en aide aux malvoyants. Avec 40 000 euros, elle veut permettre d'opérer plus de 100 patients, des enfants et leurs mères. La première opération sera en Côte d'Ivoire et Kiabadou a joint à Bamako Kajanine.
Quand on n'a pas les yeux, on n'a pas d'avenir. Il n'y a pas qu'en Afrique, même en Europe, c'est assez compliqué quand on souffre d'une cécité importante. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a des organismes qui s'occupent des aveugles et qui les scolarisent, etc. Mais ça s'adresse à une très petite partie.
Comment vous est venue l'idée de vous intéresser au handicap et à la malvoyance, la non-voyance ?
J'ai été ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans. J'ai arrêté parce que je considérais qu'il fallait laisser la relève à la jeunesse, à la nouvelle génération. Mais ce que j'ai appris, j'étais ambassadrice surtout vaccin. Si un enfant n'est pas vacciné, il y a peu de chances qu'il survive. Et il faut savoir qu'un enfant aveugle, il meurt dans les 2 ans. Personne ne sait ça. Et qu'il y a des millions d'aveugles, des milliards d'aveugles sur la planète. J'ai récolté un peu de sous, j'ai des fonds.
Vous dites récolter un peu de sous, mais c'est quand même un peu plus qu'un petit peu, puisqu'il y a quand même le projet de 100 enfants qui seraient opérés. C'est beaucoup.
On espère un minimum, avec ce qu'on a, on espère un minimum de 100 enfants, peut-être même qu'on peut aller jusqu'à 200. Mais là, je suis en train de mettre le projet en place, parce que c'est une première pour moi. À force de voir au carrefour des grandes villes, des aveugles qui mendient, mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas l'aveugle adulte qui mendie. C'est le petit fils et le petit garçon qui est à côté, qui est mobilisé à vie pour s'occuper de cet aveugle. Donc, là, ça handicape la vie de 2 personnes, déjà, d'office. Donc, je suis en train de mettre en place ce projet pour partir avec un organisme de médecins qui opèrent. Il s'appelle See and Smile, qui font des missions d'opération des yeux. Mais comme il n'y a pas toujours assez d'enfants à opérer, c'est un projet mother and child, la mère et l'enfant. C'est-à-dire que quand dans une famille, une maman aussi est aveugle, c'est une catastrophe pour toute la communauté. C'est une mission d'une semaine de 15 jours. Des médecins, ils arrivent, ils opèrent, ils repartent. On peut opérer des cataractes, on peut opérer certaines pathologies que quand vous êtes opéré, vous êtes guéri définitivement. C'est ça qui m'intéresse. Mais il y a une autre association aussi qui a très envie de se greffer sur ce projet. Eux, ils s'appellent Eyes for the World. Eux, ils donnent des mesures et ils donnent des lunettes. Donc on aimerait bien faire une action conjointe, une mission conjointe entre ceux qui font la chirurgie et ceux qui donnent des lunettes. Comme ça, là, on touche encore plus de monde.
Kajanine, ancienne chanteuse et musicienne du Burundi. Un minibus s'est renversé lundi dans les eaux tanzaniennes du lac Victoria, faisant 12 morts et seuls 3 passagers ont pu être sauvés, a annoncé la présidence dans un communiqué. Le véhicule est sorti de route alors qu'il allait déposer ses passagers au pont transbordeur de Kigunga dans le district de Mizungui. Il est tombé dans le lac, noyant les personnes à son bord. Des pirates informatiques ont volé des centaines de documents militaires sud-coréens classifiés. Parmi ces documents figure le dernier plan d'action américano-sud-coréen conçu dans l'éventualité d'une guerre avec le Nord, qui comporte notamment des projets d'attaque pour supprimer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ces informations sont rendues publiques au moment où les tensions sont très élevées sur la péninsule du fait des échanges de menaces répétées entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord, qui poursuit ses programmes nucléaires et balistiques en dépit des sanctions internationales. Et puis, l'Espagne s'approchait aujourd'hui de l'inconnu. Une possible déclaration d'indépendance au Parlement de Catalogne, une de ses régions les plus riches, avec un engrenage de rupture vis-à-vis de Madrid, aux conséquences incalculables qui inquiètent l'Europe, signe de l'attente tendue aux des événements prévus dans la soirée. Le parc aux abords du Parlement à Barcelone était fermé ce matin. La police catalane, les Mossos d'Esquadra, s'est déployée dès l'aube aux alentours du bâtiment pour prévenir tout dérapage de manifestants pro ou anti-indépendance. Jean-Roger Bion, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.